Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et nous avons tous un point commun, nous ne connaissons que très peu Anton Reicha. Profitons-en, ça ne saurait durer. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour Catherine Buzer.
Bonjour Jean-Luc.
Qui est ce monsieur à ce piano là-bas?
Mais vous le connaissez.
Bah évidemment.
C'est Ivan Illich.
Un vieux client de Musique en mémoire. On lui doit la série sur l'école américaine, Morton Feldman, avec vous Catherine.
Oui.
Puis aussi la série sur la musique pour la main gauche, Godowski.
Également.
C'est le même Ivan Illich.
Formidable pianiste, serbe, américain.
Dix doigts au piano, on vous laisse 5 heures ensemble pour parler d'Anton Reicha. Anton Reicha, pour moi, c'est un pédagogue, c'est l'auteur des quintettes. Vous avez ici non pas un quintette, mais un piano.
Et je lui ai demandé de se mettre au piano pour nous faire découvrir ce musicien et ce grand compositeur.
Ivan Illich, on vous écoute.
Une étude de Reicha pour nous recevoir ou pour nous mettre en oreille. Ivan Illich, vous nous gâtez, bonjour.
Bonjour.
Interprété tout spécialement pour nous cette semaine dans Musique en mémoire, cette étude d'Antonin Reicha, je ne sais pas trop, mais vous allez nous en dire un peu plus. Ivan Illich, je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois pour une nouvelle aventure dans Musique en mémoire. Je parle volontairement d'aventure parce que vous êtes un artiste très très curieux qui adore explorer et sortir des sentiers battus pour défricher de nouvelles terres sonores. Vous êtes en quelque sorte un aventurier des musiques perdues, si je peux me permettre. Vous aimez déterrer, défendre et faire connaître des répertoires inouïs. Et puis cette semaine, vous avez choisi de partager votre dernière découverte en date, le compositeur et grand pédagogue Anton Reicha. Voilà qui nous ramène au temps de Beethoven, puisque Reicha est son contemporain. Tous deux sont nés la même année. Et je dois avouer que j'étais un peu surprise quand vous m'aviez proposé une aventure autour de Reicha. Vous nous avez habitués à évoluer plutôt dans le tout premier XXe siècle. Et puis, pour moi, Reicha, c'est avant tout un grand pédagogue, un maître dans l'art de la musique de chambre avec vent. Alors, qu'est-ce qu'un pianiste comme vous, Ivan Illich, peut trouver chez Reicha? Est-ce qu'il y a vraiment matière à passer 5 heures en compagnie de ce compositeur? Dites-nous tout, Ivan Illich. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Reicha?
Alors, d'abord, on va parler effectivement de la prononciation de son nom, parce que c'est un grand sujet. Et ça fait partie de ma vie en tant qu'émigré, on va dire, que ce soit de la Yougoslavie ou de la Californie. Je suis désormais francophone. Et quand je suis en France, on m'appelle Ivan, tout sauf Ivan. En serbe, on dit Ivan. Il n'y a personne qui est capable de le dire ça. Alors,
ah,
c'est très
je
drôle.
Je vais me corriger.
Non, mais ne vous sentez pas du tout mal à l'aise par rapport à ça. Je trouve ça juste intéressant parce que c'est quelque chose que j'observe depuis que je suis tout petit. Quand j'étais même à l'école primaire en Californie, alors je vous épargne tous les prénoms que j'ai entendus à part Ivan. Et du coup, je suis très sensible à cette question. Et avec Reisha, alors est-ce que c'est Reisha? Est-ce que c'est Reika? Est-ce que c'est Reika? C'est assez compliqué, puisqu'en plus, c'est quelqu'un qui a une vie internationale. C'est vraiment un compositeur cosmopolite. Il est né à Prague. Son prénom, c'était Antonín. Et son nom de famille, Reika. D'accord? Alors ça, évidemment, on ne va jamais le dire ni en France ni en Allemagne. Après, comme on va découvrir par la suite, il a déménagé dans des pays allemandophones, que ce soit à Bonn, à Hambourg, à Vienne. Et là, il a tout de suite transformé son nom à, au lieu de Antonín, on a dit Anton. Et puis on a dit Reika. Donc Reika avec, au lieu de Reika, Reika. Bon, c'est proche, mais c'est quand même pas la même chose. Et pour compliquer l'histoire davantage, quand il avait 38 ans, il s'est installé définitivement à Paris. Il était déjà francophone. Au lieu d'écrire son nom Antonín ou Anton, il écrit Antoine. Et R-E-I-C-H-A. Alors évidemment, dans les pays francophones, on dit Reisha automatiquement, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Mais je pense que d'une, il faut réfléchir à la place de Reika. Moi, je dis Reika, c'est un choix. Dans l'histoire de la musique, est-ce que Reika était un compositeur allemand ou est-ce que Reisha était un compositeur français? Je pense qu'il appartient plutôt à la catégorie viennoise de tradition ou allemandophone, en tout cas germanophone. Donc c'est pour ça que je choisis de dire Reika, aussi parce que de son vivant, dans différents documents à Paris, on a vu parfois son nom écrit R-E-I-C-A, donc sans H. Bon, évidemment, on n'a pas d'enregistrement radiophonique de Reika qui disait son prénom, pour son nom de famille, pour qu'on puisse vraiment savoir ce que lui disait. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui se fondait dans le décor, ça faisait partie de son charme. Il était très adaptable, et je pense que ça fait son succès aussi. Je ne connais pas d'autre exemple de quelqu'un qui s'installe en France à 38 ans et qui devient professeur au Conservatoire de Paris et qui écrit des traités sur la composition en français, dans un français impeccable. C'est vraiment un personnage passionnant. Donc, ce qui est aussi assez intéressant et compliqué, c'est qu'on a un héritage de documents. On a des documents en tchèque, on a des documents en allemand, on a des documents en français et évidemment, chacun a un avis différent. Parce que les Tchèques considèrent que même si c'est quelqu'un qui est parti de la Bohémie à 15 ans, il leur appartient, et ça je le comprends très bien. Ce sont les musicologues tchèques dans les années 60 et 70 notamment, qui ont commencé vraiment à évaluer son héritage, son patrimoine de compositeur. Mais il a composé beaucoup de musique à Vienne, à Hambourg, dans le style d'un Beethoven, d'un Mozart. Il était dans cette tradition-là. Donc, parmi ses professeurs, on compte Haydn quand même. C'était son idole de compositeur. Et après, il a vécu à Paris et ses partitions ont été léguées à la Bibliothèque nationale de France. Donc on est très perturbé quand on approche de ce personnage. On ne sait pas comment l'aborder. C'est très difficile. Parmi ses compositions les plus connues, il y avait les 25 quintettes avant qui ont été publiées, toutes à Paris, entre 1811 et 1820. Donc, ne serait-ce que cet héritage-là suffit pour le considérer comme un grand compositeur. Bon, lui, il était modeste par rapport à cette cantate avant. Il a dit que personne d'autre a écrit des compositions pour cette formation et que c'est pour ça, c'est parce qu'il y avait un manque. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas uniquement cela. C'est aussi que lui, il maîtrisait particulièrement les instruments avant parce qu'il était flûtiste lui-même. Mais quelle est la position de Reika dans l'histoire? À qui est-ce qu'il appartient? Quelles étaient ses pièces les plus importantes? Quelle était son influence? Il était professeur, encore une fois, au Conservatoire de Paris. Il avait des élèves très, très réputés et connus qui sont devenus, à leur tour, des grands compositeurs. Alors, comment est-ce qu'on doit le considérer? C'est très, très compliqué comme question.
Et votre lien à Reika, alors, comment l'avez-vous découvert, ce compositeur? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer sa musique?
Alors, au début, avec moi, c'est toujours un peu mystérieux. Qu'est-ce qui fait que je m'intéresse à un compositeur plutôt qu'un autre? En tout cas, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours. Ce sont effectivement les gens qui ont peu de gens qui les défendent. Donc, c'est sûr que Reika, il n'a pas les centaines, voire les milliers de pianistes qui jouent ses œuvres, comme Beethoven, par exemple. Il n'a pas la réputation de Mozart. Il n'a pas, même si on compare avec certains de ses contemporains, que ce soit Cherubini ou il y a des compositeurs qui sont beaucoup plus joués aujourd'hui. Alors évidemment, ceux qui jouent les quintettes avant, les musiciens dans les conservatoires au monde entier, connaissent Reka par cœur. Mais par contre, pour nous, les autres musiciens, on ignore ce legs. Et je pense que c'est au moment que j'ai découvert qu'il y avait d'une 36 fugues qui m'ont vraiment titillé. L'idée d'avoir des fugues révolutionnaires, des fugues écrites en 5 temps en 1800, ne serait-ce que cela, ça m'a donné envie de découvrir en tout cas. Je ne savais pas que j'allais aller jusque-là. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à défricher là-dedans. Et parfois, on voit de temps en temps, par exemple, des journaux musicologiques, on voit des allusions par des musicologues qui sont au courant, des petits clins d'œil comme Reka. On sent qu'il y a quelque chose à découvrir, mais par contre, cette musique n'est jamais jouée. Elle est peu enregistrée. Souvent, malheureusement, elle est mal enregistrée. Donc, ce sont des enregistrements qui n'ont vraiment pas rendu service à la musique et à son potentiel, notamment, en ce qui me concerne, en tout cas. Et donc, je pense que quand je sens qu'il y a un compositeur comme ça qui est sous-estimé, qui en plus qui a une place déjà dans l'histoire de la musique, il y a vraiment quelque chose à faire.
Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette semaine grâce à vous, Ivan Illich. Donc ce compositeur, un personnage incroyable, un homme d'idées, un aventurier de la nouveauté. Et tous ces termes, je les emprunte à une personne qui a été son élève, qui est Berlioz. Donc si Berlioz écrit ceci de Reka, ça veut dire que ce compositeur mérite toute notre attention. Est-ce qu'il y a des sources auxquelles vous vous êtes abreuvé, qui vous ont alimenté dans vos recherches et qui vous ont aidé à vous conforter dans l'idée que Reka est un personnage qui vaut la peine d'être exploré ?
Alors justement, l'une des choses pour moi qui était un changement par rapport aux autres recherches que j'ai faites sur d'autres compositeurs, que vous avez évoqué tout à l'heure, que ce soit l'école de New York des années 50, 1950, hein, je précise, 1960, etc., ou que ce soit Godowsky, le répertoire pour la main gauche, donc principalement des œuvres qui sont écrites entre 1900 et 1940, on va dire. Là, il y a des documents plus récents. On a des enregistrements sonores, on a des interviews, on a beaucoup de journaux, des articles qui ont été publiés, que ce soit écrits par les gens, les acteurs. Donc on a des documents de source qui sont abordables. Alors que plus loin on va dans l'histoire avec quelqu'un comme Reka, c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, même avec un grand compositeur comme Beethoven, il y a un énorme intérêt, évidemment, pour le personnage, mais on est obligé de nous reposer sur des documents très basiques, par exemple le certificat de baptême, l'attestation de mariage. On connaît les salaires de certains musiciens, que ce soit Bach, que ce soit Beethoven, que ce soit des commandes ou alors le prix qu'un éditeur aurait acheté des mélodies de Schubert. En fait, ce sont des choses qui nous donnent les seules informations, quelque part, qu'on a sur ces compositeurs. Des informations précieuses. Et puis, il y a évidemment la correspondance qui est très, très importante. Et ce qui est difficile avec les correspondances, c'est que parfois, on a la correspondance dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, on n'a pas les réponses. Donc, on doit spéculer, voir, selon l'évolution de la correspondance, qu'est-ce que l'autre personne a sans doute dit. Et c'est cette spéculation qui fait une grande partie de l'historiographie musicale. Et parfois, on peut se tromper complètement et découvrir des documents par la suite qui nous prouvent qu'en fait, on avait tort sur l'idée d'un compositeur. Donc avec Reka, c'est extrêmement important, ces documents de source. Et heureusement, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, lui. Donc on avait beaucoup son avis sur la musique de son temps. Il écrivait beaucoup de traités sur la composition, sur la mélodie, sur la construction harmonique, des choses comme ça. Donc on sait ce qu'il a pensé sur certaines choses. Évidemment, c'était dans un cadre formel, c'était pour des élèves. Donc c'était pas comme si on avait des enregistrements de Reka qui parlait. On n'a pas la boîte mail de Reka, malheureusement. Ce serait passionnant sans doute. Mais ça nous donne quand même suffisamment d'éléments avec la musique qui est quand même qui est tellement expressive et qui nous dit tellement sur le bonhomme, notamment sur ces innovations que vous avez évoquées tout à l'heure, qu'on peut déjà se faire une idée sur ce centre d'intérêt, ces tendances, que ce soit l'instrumentation qu'il préférait. Bah déjà, les quintettes avant, ce n'est pas étonnant qu'il était flûtiste assez longtemps, c'était son premier instrument, il était considéré comme un virtuose à 15 ans de la flûte déjà.
Donc. À ces sources, on peut ajouter aussi également tous les écrits de ses élèves, puisque Reka était surtout connu comme pédagogue. Et à Paris, tous les élèves des conservatoires venaient le voir, parce que c'était le personnage qu'il fallait fréquenter. Donc Berlioz a été son élève, Chopin a été son élève, et d'autres personnalités dont on aura l'occasion de parler dans une de ses prochaines émissions. On va peut-être commencer par le commencement et suivre le parcours d'Antonín Rajka ou d'Anton Rajka, puisque vous avez bien corrigé les prononciations qu'il faut avoir. Il est né le 26 février 1770 à Prague, il est donc d'origine tchèque, mais c'est hors de son pays natal qu'il va faire carrière. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? D'où vient-il ?
Donc il est né dans un petit village à côté de Prague, effectivement, et quand il a 10 mois, il y a son père, qui était musicien, qui décédait malheureusement. Et assez rapidement, il réalise que sa mère ne va pas s'occuper de son éducation. Il n'a même pas fait l'école primaire, paraît-il. Mais il avait le soif pour la connaissance. Et donc, c'était extrêmement frustrant pour lui. Et un jour, en se baladant dans son village, il a vu une espèce de chariot passer. Et il s'est dit, je vais aller rejoindre mon grand-père. Alors qu'il ignorait totalement où allait ce chariot. Et il a réussi, je ne sais pas comment, à rejoindre son grand-père qui habitait à des centaines de kilomètres. Et son grand-père a réalisé que l'enfant était complètement délaissé. Donc, il avait alors 11 ans. Il a envoyé chez son autre fils, donc Joseph, qui était compositeur et violoncelliste, pour un mécène privé, qui avait son propre orchestre privé. Et effectivement, le petit Antonín, donc à l'époque, comme il était encore en Bohémie, je l'appelle Antonín, comme son oncle l'aurait appelé, l'accueillit des bras ouverts. Et heureusement, donc, cet oncle, Joseph, n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et ils étaient très, très contents de s'occuper de l'éducation de cet enfant. Et c'est grâce à eux, en fait, que Rajka est devenu ce qu'il est devenu, qu'il est donc devenu compositeur. Il doit tout à ce couple, notamment parce que la femme était d'Alsace. Et pendant que l'oncle lui enseignait la flûte et le clavier, sa femme lui enseignait le français et l'allemand. Et c'est comme par hasard les deux langues qui allaient compter le plus pour lui dans toute sa vie, puisqu'elle a passé, à partir du moment où il est parti à 15 ans de la Bohémie, il a passé toute sa vie, soit dans les pays germanophones, soit dans les pays francophones. Alors justement, il y a son oncle qui a été nommé directeur musical à Bonn quand Rajka a 15 ans. Donc on est en 1785. Bonn était une ville assez ouverte, notamment sur les Lumières. Il y a une université qui va être créée par l'électeur de Cologne. Ils sont contre la religion, ils sont contre l'enfermement des idées. Au contraire, ils veulent que ça soit un centre d'idées, en fait, que Bonn devienne vraiment, que ça attire des intellectuels. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une coïncidence, finalement. Quoique pas tant que ça, parce que c'est pas pour rien qu'on a fait venir Joseph pour diriger l'orchestre. C'est parce que, justement, la musique était un signe. Comme en France, par exemple, dans les années 90, ils ont ouvert plein de conservatoires de musique. C'était la façon de montrer qu'une commune avait une vie culturelle. Et ben, à Bonn, à l'époque, c'était un orchestre. Il fallait avoir un orchestre. Et donc, Joseph était le chef d'orchestre. Et il a invité donc son neveu à le rejoindre à Bonn et à jouer dans cet orchestre. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y avait Rajka, donc Antonín, qui avait 15 ans. Et il y avait Beethoven qui était à quelques pupitres plus loin, qui jouait l'alto, qui était originaire de Bonn. Donc, ce n'était pas très étonnant que Beethoven soit là, mais quand même. Et puis, il y avait aussi des musiciens qui avaient 30, 40 ans de plus, qui jouaient du violon à côté d'eux. C'est un grand mélange. C'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui, ou alors à la limite dans un orchestre amateur. Mais déjà, je trouve que le brassage est très, très intéressant à ce niveau-là. Et comme par hasard, c'est l'un des membres d'orchestre, Nif, un compositeur qui allait devenir le professeur de composition à la fois de Beethoven et de Rajka. Mais là, j'avance un peu trop dans l'histoire, parce que déjà, jusqu'à 15 ans, Rajka, c'est énorme ce qu'il a vécu. Donc, il a vécu la mort de son père à 10 mois. Il intègre le foyer de son oncle et il déménage à Bonn à 15 ans. Pour lui, ça a dû être le choc.
Alors, il intègre donc cet orchestre de Bonn et c'est pas étonnant que parmi ses premiers opus composés, on trouve une ouverture pour orchestre, ouverture que je vous propose d'écouter à l'instant. Un extrait de l'ouverture en ré majeur d'Anton Reicha, ici interprété par Peter Gulke à la tête de l'orchestre symphonique de Wuppertal. Le destin d'émigré d'Antonin Reicha finalement n'a rien d'exceptionnel pour cette époque. L'exil, c'est le meilleur moyen pour un compositeur de faire carrière, pour un compositeur tchèque. Et le pays ne manque pas de compositeurs qui vont devenir célèbres. Si on écoute le musicographe anglais Charles Burney, il a qualifié un jour la Bohème de conservatoire de l'Europe. Il y a même un dicton en Bohème qui veut que chacun des enfants nés dans ce pays trouve un violon dans son berceau. Pourquoi l'émigration, Ivan Illich, semble-t-elle un passage obligé pour tous ces compositeurs? Qu'est-ce qu'il en est de la vie musicale à Prague à la fin du XVIIIe siècle?
Je pense que ce qui manque notamment, c'est la cour qui va subventionner les musiciens, et notamment les meilleurs musiciens, ceux qui sont les plus ambitieux. Il y a effectivement des orchestres, il y a une très bonne éducation dans les écoles primaires, chez les jésuites, côté musical. À Prague, il y a beaucoup des compositeurs tchèques qui sont passés par là. Mais par contre, ceux qui ont pu sont partis assez vite vers Dresde, vers Bonn, vers Cologne. On va découvrir certains d'entre eux, puisque c'était ceux qui avaient le plus d'ambition. Et c'est surtout, je dirais que ce n'est pas tellement un manque de ce qu'il y avait sur le sol tchèque ou bohème, c'est plutôt ce qui était proposé ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les airs, de toute façon, qu'on retrouve dans toutes les époques. C'est que les artistes, dans un certain domaine, quand ils voient qu'il y a une proposition intéressante quelque part, ils sont drainés. Moi, j'ai vu récemment, par exemple, des acteurs de cinéma italiens qui me racontent que pendant les années 90 et 2000, ils sont tous partis de l'Italie à cause de la politique de Berlusconi, qui a fait que le cinéma italien était, pour une grosse part, produit à l'étranger. Donc, il y en a plein qui se sont installés en France ou aux États-Unis. Et évidemment, l'Italie a perdu beaucoup de son talent suite à ce changement politique, finalement. C'est un contexte qui a fait qu'ils sont partis. Alors là, en l'occurrence, pour moi, les Tchèques ne sont pas partis parce qu'il y avait un manque de quelque chose à Prague, mais plutôt puisqu'il y avait des énormes cours qui voulaient chacun prouver qu'il était le plus important, un centre culturel. C'était l'époque des Lumières, un peu plus tard, la fin du XVIIIe siècle. Donc là encore, c'était très compétitif finalement. Ils drainaient des musiciens de partout, que ce soit de l'Italie, ce qu'on appelait la Tchéquie à l'époque, de tous les pays de l'Europe finalement.
Les historiens de la musique parlent souvent de plusieurs vagues d'immigration tchèque. Est-ce que pour mieux comprendre la vie d'Antonin Reicha, on pourrait peut-être nous donner un petit aperçu de ces différentes vagues de compositeurs qui sont partis de la Bohème pour aller faire carrière à l'étranger?
Oui, effectivement. Quand on parle des trois vagues, c'est plutôt par rapport à la musique du XVIIIe siècle. Donc la figure majeure, plus importante de cette époque-là, enfin, disons que la fin de l'époque baroque, ce serait Jan Dismis Zelenka, qui était quelque part un contemporain de Bach, qui est 6 ans de plus que Jean-Sébastien Bach, hein, je précise quand même, parce qu'il en avait plusieurs. Il est né en 1679 dans un village en Bohème. Il est fils d'un cantor, ce qu'on appelle un cantor dans les pays allemandophones. C'est quoi? C'est comme un chef de chant, c'est quelqu'un qui organise la musique dans une église. Donc, en l'occurrence, une église catholique. Et c'est un détail qui va revenir dans son histoire, qui est assez intéressante et importante. Alors, ce qui est encore une fois difficile avec quelqu'un comme Zelenka, c'est qu'il n'y a aucun document qui existe de ses 25 premières années. Puisque, encore une fois, on n'a pas le certificat de baptême, on n'a pas les notes qu'il a reçues à l'école, on n'a rien de tout ça. On sait qu'il a probablement été scolarisé dans un collège jésuite, à la Clementinum, qui existe encore, qui est désormais une salle de concert à Prague. En tout cas, il était contrebassiste, où il jouait la grande viole, donc c'est l'ancêtre du contrebasse. Et il était suffisamment talentueux sur cet instrument pour être invité à Dresde, chez Auguste Lefort, Auguste de Saxe. Et l'histoire est assez intéressante puisqu'Auguste s'est converti en catholique en 1697 pour qu'il puisse avoir accès, pour devenir roi de Pologne en fait. Et du coup, dans un milieu protestant, c'est-à-dire à Dresde, donc fin 17e, début 18e, c'était assez délicat parce qu'il fallait à la fois avoir la cour catholique au milieu d'un milieu protestant. Et c'était assez mal vu ce côté catholique dans l'ensemble. Donc ce qu'il a fait, Auguste Lefort, encore une fois, c'est qu'elle a converti un théâtre dans une chapelle royale catholique. Et donc il y avait une chapelle à l'intérieur de la cour et qui était finalement privée, qui appartenait à la cour. Il a fait ça en 1708 pour prouver au pape qu'il était sérieux, qu'il était vraiment converti en catholique, que ce n'était pas juste pour avoir accès au trône de la Pologne. Alors, cette chapelle a été entièrement dirigée par des jésuites qui l'ont fait venir. Ça faisait partie de la tradition catholique tchèque, en fait, puisque c'était la plus proche, ça faisait partie de ces liens-là. Et donc, il avait besoin de musiciens catholiques. Donc, il avait besoin de compositeurs catholiques qui étaient dans cette tradition-là. La tradition catholique est très, très différente de la tradition protestante de l'époque. Était beaucoup plus expressive. Donc, il a fait la chose normale. Il a cherché dans les pays tchèques pour des compositeurs et des musiciens pour son orchestre. Et il en a fait venir plusieurs, dont Zelenka, qui était donc contrebassiste, on va dire, dans cet orchestre. Et pour lui, le modèle, c'était Louis XIV. En fait, il voulait que sa cour, Auguste Lefort, rayonne, que tout le monde soit au courant qu'il y avait ce beau orchestre, avec son beau répertoire, avec sa musique composée par des compositeurs catholiques sur place. Il voulait que Dresde devienne la Florence du Nord, que ce soit vraiment un centre culturel où les gens, les compositeurs qui étaient de passage, allaient passer par là, aussi pour donner, puisque l'un des problèmes, c'est que ces cours sont assez insulaire, c'est-à-dire que vous avez des musiciens sur place, c'est très bien, mais les gens ne voyageaient pas aussi facilement, les partitions n'étaient pas imprimées, les partitions étaient copiées à la main, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Zelenka a demandé à Auguste s'il pouvait voyager pour perfectionner un peu son art en tant que compositeur, parce qu'il était à la fois contrebassiste, mais il composait déjà, il a composé sa première messe, il l'a dédiée à Auguste, et il lui a demandé s'il pouvait se perfectionner en composition, en Italie et aussi à Vienne notamment, avec Joseph Fuchs. Et sa demande a été acceptée, ce qui a fait que Zelenka est parti 4 années de suite, c'était les seuls voyages dans sa vie en fait, depuis son départ de Prague, et en 1716, 17, 18, 19, vers la fin de l'année, il est parti plusieurs mois, d'abord en Italie et après à Dresde, où il a travaillé effectivement avec Fuchs, il a travaillé le contrepoint. Et aussi, surtout, il a copié des partitions de tous les grands maîtres de la tradition catholique à Vienne. Donc, il y avait des archives où il pouvait copier à la main. Donc, alors, vous imaginez, Zelenka, non seulement il est censé composer la musique pour sa cour chez lui, mais à la fois, il doit, dans la journée, copier des partitions, des manuscrits de d'autres compositeurs, dont Palestrina, Allegri, Frescobaldi, Morales, et aussi, évidemment, des contrepoints de Fuchs et de Zelenka lui-même, et les envoyer, et puis les ramener aussi. Puisqu'il fallait que, pour animer la cour à Dresde, il fallait avoir non seulement la musique de Zelenka et aussi du Kapellmeister, qui était à l'époque Jean-David Einichen, qui était assez malade à l'époque. Zelenka l'aidait beaucoup, il composait de la musique pour étoffer un peu le répertoire de cette chapelle. Mais aussi, Zelenka faisait le travail donc, de voyager, de ramener de la musique. Donc je trouve que cette double casquette à la fois de compositeur et évidemment musicien d'orchestre, mais aussi de ramener, d'être une passerelle de différentes cultures, c'est absolument passionnant. Et je pense que Zelenka a pu énormément absorber d'influences de différentes musiques et de différents compositeurs qu'il n'aurait pas pu s'il était resté à Dresde toute sa vie. Donc heureusement qu'il est parti 4 fois.
On va écouter un mouvement d'une messe de Jan Dismas Zelenka. Vous avez choisi de nous faire entendre le Kyrie de la Missa Pasqualis.
Thank you.
Le Kyrie de la Missa Pascalis de Jan Dismas Zelenka, interprété par l'ensemble Inégal. Jan Dismas Zelenka, Ivan Illich, donc, il fait partie de cette première vague d'immigrants tchèques qui ont fait carrière hors de Bohême. Représentants de la deuxième vague, qui sont-ils ?
Alors, la deuxième vague est déjà plus étendue. Il y a plus de musiciens dont on pourrait parler éventuellement, mais je pense que le plus représentatif, le plus important, ce serait Jan Vaclav Stamitz, puisqu'il avait ce lien avec les fameux orchestres de Mannheim. Alors Stamitz était originaire de Maribor, donc ce qui est Maribor aujourd'hui, la deuxième ville de la Slovénie, que je connais bien. Il était à l'université de Prague, et tout comme Zelenka, il est parti assez tôt, il avait 20 ans, et il a poursuivi une carrière de violoniste virtuose. Alors, encore une fois, on manque de documents pour savoir comment exactement il est arrivé là. Mais il est arrivé à la cour de Mannheim en 1741 environ, donc il avait 23 ans. Et assez vite, il était le premier violon de l'orchestre, ce qui est assez impressionnant à son âge. Il est devenu par la suite Kapellmeister, donc directeur de l'orchestre. Et ce qui est remarquable chez cet orchestre, c'était le côté homogène. Et surtout, ils étaient tous des solistes dans cet orchestre. Donc, je pense que c'était le début, finalement, du côté spécialiste dans les orchestres qu'on a aujourd'hui. Dans les orchestres auparavant, il y avait la plupart des musiciens qui jouaient plusieurs instruments. Ils pouvaient jouer de la flûte et le violon, ou le cor et l'alto, par exemple. Et là, par contre, chacun était tellement spécialisé qu'ils ont monté, ils ont perfectionné leur niveau de technicité sur l'instrument. Et ça a eu une énorme influence sur les compositeurs, puisque une fois que les compositeurs ont compris que l'orchestre peut être aussi homogène, qu'ils peuvent jouer des traits aussi virtuoses, qu'ils peuvent faire des effets, par exemple des accents ponctuels très impressionnants, bah, la musique a évolué par rapport à cela. Donc, je parle de la musique instrumentale, bien sûr. Donc il y avait le courant de la musique lyrique et les ouvertures, mais finalement, les symphonies, ce qu'on considère aujourd'hui comme les symphonies purement instrumentales, étaient à l'origine une forme italienne, c'était l'ouverture, c'était au début d'un opéra, il y avait l'orchestre qui jouait un morceau de 5-10 minutes. Et ça a évolué un peu vers ce qu'on considère comme la symphonie d'aujourd'hui, qui était perfectionnée notamment par Haydn et plus tard Mozart, Beethoven. Mais cette transition dont on parle assez peu s'est faite justement grâce aux gens comme Stamitz. Parce que Stamitz, il connaissait à la fois la tradition italienne d'ouverture, parce qu'il jouait des ouvertures d'opéra souvent en tant que violoniste, et à la fois, il voyait l'orchestre qui poussait plus loin, qui allait évoluer vers autre chose, qui allait être indépendant finalement de son contexte dans un opéra, qui allait pouvoir jouer un morceau pendant 20 minutes, 25 minutes, et qui allait pouvoir tenir l'attention du public. Alors, il a voyagé aussi, il a voyagé à Paris, notamment, il a joué dans des concerts spirituels, où il a eu beaucoup de succès en tant que violoniste. Mais finalement, ce qu'il a contribué à l'histoire de la musique, c'était dans ses propres symphonies, parce qu'il en a écrit presque 60, c'était le fait d'avoir un troisième mouvement dans la symphonie qui était un minuet, qui est devenu plus tard, par exemple dans les œuvres de Beethoven, un scherzo, donc à savoir comme une danse à trois temps, qui peut être très virtuose, encore une fois. Et ça étend déjà la symphonie de trois mouvements à quatre mouvements. Donc ça devient un truc un peu plus massif. Ça donne au compositeur un équilibre différent, parce que, évidemment, dans la symphonie, les premières symphonies, c'était toujours introduction lente, mouvement rapide, qui était le premier mouvement, mouvement lent, mouvement rapide. Donc c'était très basique et très prévisible surtout. Donc ce quatrième mouvement, après, dans Beethoven et dans les romantiques, on a inversé parfois, c'est le scherzo en deuxième. Il y a un côté un peu plus ambigu et un peu plus ambitieux dans la forme. Et tout cela a commencé avec Stamitz, et notamment avec son côté virtuose, l'orchestre de Mannheim est devenu connu pour ses crescendo, pour ses accents, pour sa précision. Et ce sont les outils qui ont servi à des gens comme Haydn. Ce n'est pas pour rien qu'Haydn a écrit plus de 100 symphonies. C'est parce qu'il vivait dans une époque où l'orchestre symphonique était en train d'exploser en termes de qualité.
On va donc écouter une symphonie de Johann Stamitz. Je vous propose d'écouter la symphonie en ré majeur A4, ici interprétée par Simon Murphy et c'est à New Dutch Academy. Thank you. presto de la Symphonia 4 en ré majeur de Johann Stamitz. Simon Murphy dirigeait la New Dutch Academy. Johann Stamitz, donc représentant de cette deuxième vague d'immigrants tchèques, deuxième vague à laquelle appartient également Josef Myslivecek. Qui est-il, Ivan Illich ?
Absolument, personnage impressionnant et passionnant, assez romanesque. Donc lui aussi, il est né à Prague. Il est devenu maître moulin assez jeune pour continuer dans la lignée familiale. Et puis, il est parti assez vite en Italie, à Venise, où il a trouvé son bonheur en tant que compositeur. Il était accepté les bras ouverts par les Italiens. C'est très, très impressionnant qu'un jeune tchèque puisse composer dans le style italien et avoir autant de commandes tout de suite dans les plus grandes salles de spectacles, de maisons d'opéra notamment, à travers l'Italie, que ce soit à Naples, à Rome, à Bologne. C'est quelqu'un qui a tout de suite fait carrière et qui est mort assez jeune, à 44 ans. Mais de là, pendant les années 1770, c'était l'un des compositeurs qui avait le plus de commandes dans les plus belles maisons d'opéra d'Italie. Assez impressionnant. Qui avait les meilleurs chanteurs. Et notamment, aujourd'hui, on le garde en souvenir puis à cause de sa relation avec Mozart. Parce qu'il a rencontré à Mozart, ils ont logé dans la même auberge quand Mozart avait 14 ans, en 1770. Et par la suite, ils sont restés en contact. Et Mozart avait énormément d'affection pour lui. C'est le seul compositeur pour lequel on voit Mozart s'exprimer avec autant d'affection. Et heureusement qu'on a ces documents, justement, pour savoir un peu plus sur ce bonhomme, puisque Mozart écrivait à son père et son père lui répondait. Donc Léopold Mozart savait que Myslivecek avait une réputation de promiscuité sexuelle, ce qui inquiétait beaucoup pour la relation avec son fils, mais Mozart le prenait comme un modèle au niveau de son style, puisqu'il avait tellement la maîtrise du style italien, du style galant, un peu facile, brillant, que Mozart le prenait vraiment comme modèle, que ce soit ses symphonies, que ce soit ses concertos pour violon. Myslivecek, c'était l'un des premiers à faire des concertos pour violon aussi importants après Vivaldi. Entre Vivaldi et Mozart, il y a lui, quoi. Il y a Myslivecek qui a vraiment fait des concertos de violon très intéressants. Et je pense que quand on entend que Mozart a fait des arrangements, des airs de Myslivecek souvent, et quand on entend les airs d'opéra de Myslivecek, on les identifie à Mozart, on identifie le style, on l'identité. La même époque, quoi. C'est très, très intéressant ce lien. Et encore une fois, heureusement qu'on a la correspondance pour savoir d'où vient une part de Mozart, pas tout, mais une part.
On dit souvent que Myslivecek était surnommé le divin tchèque, il divino bohemo, et qu'il est aussi salué comme le père de l'opéra tchèque. On va justement écouter un air extrait d'un de ses opéras. Il s'agit de l'air de Creonte, interprété ici par la mezzo-soprano Magdalena Kojena.
Thank you.
Sarò qua il Tordento, un extrait d'un opéra de Mislevecek, ici interprété par Magdalena Kožena, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Chambre de Prague, sous la direction de Michel Svierczewski. Mislevecek, représentant de la deuxième vague d'immigrants tchèques, est le compositeur qui nous intéresse cette semaine. Anton Rajka fait partie, lui, de la troisième vague de compositeurs tchèques émigrés. Alors, on l'a vu, Mislevecek est parti plutôt en Italie. Stamitz a fait carrière à Mannheim. Rajka, lui, va faire carrière à la fois en France et en Allemagne.
Oui, c'est très intéressant la façon dont sa carrière a évolué parce que justement, ses cultures musicales, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays germanophones, étaient assez cloisonnées. C'est rare qu'un compositeur puisse se balader d'un pays à l'autre, mais il y a des raisons historiques pour cela. Ce n'est pas pour rien que Rajka a quitté Hambourg à un certain moment quand il y a les troupes françaises révolutionnaires qui sont arrivées. Et puis de même, en 1808, quand il a décidé de s'installer à Paris, c'est parce que les choses, l'air s'est raréfié à Vienne. Mais ce sont des excuses finalement, parce que Rajka, il aurait pu avoir du succès dans les deux endroits. Mais je trouve ça très impressionnant, en sachant la difficulté avec laquelle la plupart d'étrangers, notamment des musiciens, s'installent dans le petit monde musical parisien. La façon dont Rajka a intégré les choses, devenir professeur au Conservatoire de Paris, il est devenu membre de l'Institut, il était naturalisé. Et toute cette partie de sa vie, c'était après 38 ans. Donc, il a fait vraiment deux carrières. C'est absolument passionnant. On aurait pu juste considérer son œuvre des années viennoises et avec Hambourg, donc on va dire de 1794 jusqu'à 1808. C'est largement assez d'œuvres pour lui pour créer sa place dans la postérité. Et tout ce qu'il a fait à Paris, pareil. On aurait pu être un compositeur qui est arrivé de nulle part, qui n'a rien fait. Et tout ce qu'il a fait à partir de 1808 jusqu'à sa mort en 1836, que ce soit les traités de composition, les élèves qu'il a eus en tant que pédagogue, les quintettes avant qu'il a composées, tout ça lui vaut une place dans l'histoire de la musique. Donc, il vaut deux places de l'histoire de la musique et c'est dommage qu'il n'en a même pas une aujourd'hui, mais je pense qu'on va travailler là-dessus dans cette émission.
On est en train de rectifier cette erreur avec vous, enfin grâce à vous, Ivan Illich. Donc, plaisir de vous retrouver demain, même lieu, même heure, et cette fois, on explorera les années viennoises. À demain.
À demain.
quelques pages du troisième trio de l'opus 100 d'Anton Raïka, comme on doit dire. Je le sais désormais, grâce à vous Catherine Buzer et à votre invité, notre invité Ivan Illich.
Que l'on retrouve demain.
Bien sûr. Toujours au piano, merci beaucoup Catherine. Et merci à Fred Bernard pour sa réalisation, à Renaud Millet-Lacombe pour sa prise de son, à Isabelle Watson pour son assistance à la production. Musique en mémoire, c'est une proposition de Jean Luc Rider. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.